possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en cours sans crainte, même si elle a ses règles. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr.
14h sur Europe 1. On trouve la rédaction pour les infos.
Bonjour à tous. À la une de l'actualité, le Hamas a diffusé une nouvelle vidéo d'otages israéliens. Elle montre deux hommes de 47 et 64 ans retenus à Gaza. Ils ont été enlevés le 7 octobre. Dans la vidéo, ils s'expriment probablement sous la contrainte. L'un des otages décrit une situation difficile en raison de nombreux bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Il appelle le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à négocier pour parvenir rapidement à un accord. Dans l'actualité également, de violents incidents ont éclaté hier soir à Givors, dans le Rhône, près de Lyon. Des groupes de jeunes très mobiles ont semé le chaos dans le centre-ville en allumant des incendies et en tirant des mortiers. Deux voitures de police municipale ont été incendiées devant la mairie. Noémie Loisel, vous êtes sur place pour Europe 1. Vous en savez plus sur les raisons de ces violences?
Oui, vers 22h hier soir, deux véhicules de la police municipale ont été incendiés et des tirs de mortiers ont aussi été lancés en direction des forces de l'ordre. Ces violences seraient des représailles. Les individus auraient voulu tendre un guet-apens aux policiers. Plus tôt dans la soirée, quatre mineurs âgés de 13 à 16 ans avaient été placés en garde à vue, suspectés d'avoir agressé un autre mineur. Ce matin, les habitants sont en colère.
J'habite là, hein. Ils ont sorti les poubelles dans le garage, dans le sous-sol, et ils ont brûlé 5 poubelles. Ça doit faire 3 mois à peu près. Vous croyez que c'est normal?
Ils s'attaquent à la police municipale, ils s'attaquent aux gens qu'ils devraient respecter. Ils respectent rien.
Un sentiment de colère partagé aussi par le maire de la commune, Mohamed Boudjilaba, qui condamne fermement ces violences.
Aujourd'hui, ces fauteurs de troubles doivent être condamnés. Nous gênons beaucoup de monde et nous allons continuer à les gêner. Et là-dessus, je vais déployer encore un peu plus de forces de police municipale dans les prochaines semaines, dans la mesure de mes moyens financiers.
Ce soir, la police nationale devrait d'ailleurs être à nouveau sur place pour assurer la sécurité et éviter de nouveaux débordements.
Merci Noémie Loisel, correspondante pour Europe 1 dans la région lyonnaise. Lutter toujours plus et toujours mieux, c'est l'objectif du gouvernement. Dans un entretien pour la Tribune dimanche, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a dévoilé un plan choc de lutte contre les gros trafiquants de drogue. Parmi les mesures annoncées, la mise en place d'un parquet national dédié à la lutte contre la criminalité organisée ou la création d'un véritable statut du repenti. Ce nouveau statut ne coûtera pas un centime aux contribuables et sera intégralement financé grâce aux avoirs criminels, annonce du ministre de la Justice. Du sport et du football, le sacre du PSG encore une fois repoussé après le match nul 3-3 face au Havre hier. Si Monaco ne s'impose pas à Lyon ce soir à 19h, les Parisiens seront assurés de remporter un 12e titre de champion de France. Suite et fin de la 31e journée aujourd'hui, Metz reçoit Lille. La rencontre se déroule en ce moment, à la mi-temps, les Lillois mènent 2-1. Ils doivent l'emporter pour espérer atteindre la 3e place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Et ce soir à 21h, Marseille reçoit Lens, avec en ligne de mire pour les deux équipes les dernières places européennes.
Europe 1,
14h03, bon après-midi avec Christophe Ondelat pour Ondelat raconte.
Europe 1, 14h, 15h, Ondelat raconte.
Bonjour à tous. Elle s'appelle Lily Keller Rosenberg. Elle a été déportée en 11 ans avec sa maman et ses deux petits frères à Ravensbrück, puis à Bergen-Belsen. Elle est l'une des dernières survivantes de la Shoah et elle est là, en face de moi. Bonjour Lily.
Bonjour.
L'histoire que je vais raconter est votre histoire et je la tire directement de votre livre qui paraît chez Plon. Et nous sommes revenus seuls. Cette histoire, je l'ai écrite avec Bettina Servant. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Pendant des années, nous n'avons parlé à personne de ce qui nous est arrivé. À quoi bon ? Les rares fois où on a essayé, on ne nous a pas cru. On nous a répondu, nous aussi on a eu faim en France. Pourquoi poursuivre si on ne nous croyait pas? Alors pendant longtemps, nous nous sommes tus. Moi j'ai eu envie de rompre le silence à un moment très précis. Un jour où j'ai entendu quelqu'un dire à la radio que les chambres à gaz n'avaient existé que pour tuer les poux. Ça m'a mis hors de moi. Et voilà pourquoi, depuis 1983, je raconte mon histoire à des centaines de milliers de jeunes. En 1940, quand le régime de Vichy a exigé des Juifs qu'ils se fassent recenser, papa, en bon citoyen loyal et honnête, est allé s'inscrire sur les registres. Nous sommes maintenant en septembre 1942. Je viens d'avoir 10 ans. La guerre a éclaté il y a 3 ans. Notre ville est occupée. Les parcs de jeux sont interdits aux enfants juifs. Mais nous, les enfants, nous ne sentons pas l'étau qui se resserre. Nous ne voyons rien venir. Nous ne devinons rien. Et nos parents évitent de nous inquiéter. Mais le soir, dans mon lit, j'entends leur bavardage. Ils parlent de rumeurs, de menaces qui nous guettent. Mais moi, tant que je suis près d'eux, je ne me sens pas en danger. Je vais à l'école Voltaire, l'école des filles de Roubaix où nous vivons. Et mon frère Robert est à l'école des garçons juste à côté. Et notre petit frère André, qui n'a que 2 ans, reste avec maman. Depuis le mois de juin, je porte une étoile jaune. Mais à l'école, personne n'y prête attention. D'ailleurs, je suis juive, mais je ne sais pas vraiment ce que ça signifie. Mes parents ne sont pas pratiquants. Maman est couturière. Tout le monde l'appelle Mamika. Et elle nous cuisine souvent des pâtisseries de Hongrie, le pays qu'elle a dû fuir dans les années 20. Papa, lui, est timide. Il est employé dans une teinturerie industrielle. Et il a gardé un fort accent d'Europe de l'Est. Très chantant. Un jour, le curé de notre paroisse, l'abbé Flipeau, vient frapper à notre porte.
Je suis très inquiet pour vous. Le fait que vous vous soyez fait recenser n'augure rien de bon. Alors si vous voulez, je peux cacher les enfants dans ma famille. Ils seront en sécurité.
Mes parents acceptent avec beaucoup de gratitude. Et un soir dans la cuisine, maman nous annonce que nous allons être séparés quelque temps.
Vous voyez les soldats qu'on voit dans la rue? Ils n'aiment pas les juifs comme nous. Et donc il va falloir aller vivre chez d'autres gens. Et surtout ne pas dire que vous êtes juif. Alors toi, Lily, t'iras dans la famille du frère de monsieur le curé. Robert ira chez ses parents. Et toi, André, tu iras chez sa sœur, Elisa. Vous verrez, ils sont très gentils. Vous y serez très bien.
Nous passons toute l'année scolaire dans ces familles, quasiment sans nous voir les uns les autres. Le frère du curé et sa femme me font passer pour leur nièce. Mais ma famille me manque beaucoup. Pour quelle raison inexplicable nos parents nous font-ils rentrer à la maison à la fin de l'été 43? Pensent-ils que le danger est écarté? Le 27 octobre 1943, à 7h du matin, nous sommes réveillés par un énorme branle-bas de combat dans la maison. Des soldats bottés, casqués, effrayants. Prenez tous vos papiers et vos affaires. Maman essaye de nous rassurer.
Allez. « Habillez-vous vite. Ne vous faites pas de soucis, ce n'est rien. »«
Schnell ! Schnell ! »
On nous pousse à l'arrière d'un camion militaire bâché. Le camion nous dépose devant la grande prison de Loos, près de Lille. On nous fait traverser un long couloir et on nous jette maman et nous trois dans une cellule et papa dans une autre.
14h-15h, Ondelat raconte sur Europe 1.
Restez bien avec nous sur Europe 1. Votre dimanche après-midi se poursuit avec Christophe Ondelat et en musique. Avant d'écouter la suite d'Ondelat raconte, voici Cat Stevens avec My Lady d'Abbeville sur Europe 1.
My Lady d'Abbeville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my Lady d'Abbeville. Why does does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Dabanvi, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dabanvi, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady Dabanvi, why do you sleep so still? My fill, yes, you will be my fill. La 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 la. La 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 la. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. And this rose will never die. This rose will never die.
Cat Stevens pour vous cet après-midi sur Europe 1. C'était My Lady Dabanville, titre iconique du chanteur britannique, sorti en avril 1970. C'est ce 28 avril après-midi. Vous écoutez Europe 1 et c'est le moment de retrouver la suite du récit de Christophe Ondelat.
Europe 1, 14h, 15h, Ondelat raconte.
Je vous raconte l'histoire de Lily Keller-Rosenberg et de sa famille. Tiré du livre que Lily publie chez Plon, et nous sommes revenus seuls. En octobre 1943, Lily, ses deux frères et ses parents, des juifs originaires de Hongrie, sont arrêtés à Roubaix et jetés dans deux cellules de la prison de Loos, près de Lille. Au bout de trois jours, la porte s'ouvre, on traverse la cour et on nous fait monter dans un camion et on nous conduit dans une autre prison, en Belgique. La prison Saint-Gilles de Bruxelles, dans des caves, dans une cellule très étroite. Une cellule déjà pleine de femmes apeurées. Nous y restons à nouveau trois jours, sans manger, ni boire, ni dormir. Et puis la cellule s'ouvre et on nous embarque vers le camp de Malines, entre Bruxelles et Anvers. Ça nous angoisse, mais nos parents sont toujours près de nous. Le 13 décembre 1943, ça fait un mois et demi que nous sommes enfermés à Malines. Les SS débarquent. Nous allons quitter le camp! Schnell, schnell! Je nous revois tous, debout les uns derrière les autres. Les femmes et les petits-enfants d'un côté, et les hommes et les garçons de plus de 15 ans de l'autre. Ils nous font entrer dans une grande salle. Vous devez tous vous mettre nus! Maman, Nous ne l'avons jamais vu nu. Ils nous font ensuite pénétrer dans une guérite, dans laquelle deux SS très jeunes nous attendent pour procéder à la fouille. Ouvrez la bouche! Penchez-vous en avant! Et là, ils écartent nos jambes et l'un des deux SS éclaire avec sa lampe de poche. Je n'oublierai jamais cette humiliation. Et ensuite, on nous presse de nous rassembler pour le départ. Mais un départ pour où? Nous faisons partie du convoi Z1 qui va transporter papa vers le camp de Buchenwald et nous, maman, mes frères et moi, vers celui de Ravensbrück. Je ne me souviens pas quand nous avons perdu papa de vue. Je ne me souviens pas du dernier mot, du dernier geste, du dernier regard. Je vois juste la cohue sur le quai, les cris des SS qui gueulent et les aboiements des chiens. On nous fait monter dans des wagons à bestiaux, une centaine de femmes et d'enfants entassés. La porte du wagon se referme. Le train se met en marche. Le voyage dure 4 à 5 jours. Épouvantable. Nous arrivons à l'aube, dans le fracas des portes de wagons qui s'ouvrent. Nous dégringolons dehors dans le froid. Il est peut-être 5 heures du matin.
Los! Los! Schnell! Schnell!
Et on suit la foule en direction de ces hauts murs sinistres, surmontés de barbelés. Dans le camp, chaque groupe est dirigé vers une salle de douche. Des femmes nous coupent les cheveux et nous rasent la tête. Et puis comme un troupeau, on nous pousse vers les douches. Un mince filet d'eau sous lequel nous claquons des dents. Outragés, humiliés. On nous distribue ensuite à chacune une robe rayée gris et bleu et un morceau de tissu sur lequel est inscrit notre matricule. Maman devra le coudre sur nos robes. André a le 25610, Robert le 25611, moi le 25612 et maman le 25613. Ravensbrück, à 80 km de Berlin, est un camp de concentration de 9 km carrés. C'est le seul qui est destiné uniquement aux femmes. En décembre 1943, quand nous y arrivons, il n'est pas encore plein. On nous fait transiter par plusieurs blocs, jusqu'au bloc numéro 31, où nous allons rester plusieurs mois. Deux grands dortoirs, séparés par une salle où se trouvent les douches, les latrines, et la chambre de la Blokova, une déportée devenue gardienne. Nous, nous sommes dans la salle de gauche. Le long des murs, des couchettes en bois sur 3 étages, équipées d'une paillasse et d'une couverture dégoûtante et bien mince, infestée de poux. Maman est avec André et Robert et moi juste à côté. Et dans cet endroit immonde, nous tentons de nous faire le plus petit possible, de nous rendre invisible. Tous les matins, la sirène hurle à 3h30. Et là, nous devons courir pour nous laver sous l'eau glacée et filer sur la place du camp pour l'appel, en colonne, 5 par 5, immobiles, bien droites. Certaines qui sont là depuis des mois tombe à genoux dans la boue et dans la neige. Et là, la cravache s'abat sur eux. Ou alors les SS libèrent leurs chiens et elles hurlent. Seules celles qui meurent pendant l'appel ont le droit de rester couchées au sol. Chaque matin, nous voyons maman partir pour l'Arbeit, le travail. 12 heures par jour à déglacer les routes à coups de pioches et de piques. Et nous, nous nous retrouvons dans notre sinistre geôle, anxieux, perdus sans elle, avec pour seule occupation de nous enlever les poux. Nous ne pleurons même plus. On nous a dit que les SS entraient parfois dans les blocs et qu'ils embarquaient un enfant seul, qu'on ne le revoyait jamais. La douleur de ma mère quand elle rentre le soir, sans savoir si elle va nous retrouver. La dysenterie est partout dans le camp. Des femmes marchent avec des coulées de merde le long des jambes. Dans notre bloc, tout se vole. La nourriture, les loques de vêtements. Alors le soir, nous enroulons nos galoches dans nos robes. Et on s'en sert comme oreiller. Et quand il n'y a pas de nazis dans les parages, nous chantons, chacune dans notre langue. Et nous, les Françaises, nous avons réécrit les paroles de « Je chante » de Charles Trenet. On souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim. C'est devenu notre hymne.
Bonjour, c'est Pierre de Villeneau. Je vous donne rendez-vous demain de 19h à 21h pour Europe 1 Soir, nouvelle formule. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée avec des invités et les voix d'Europe 1.
Europe 1 Soir, présenté par Pierre de Villeneau.
Alors rendez-vous demain de 19h à 21h sur Europe 1.
Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match.
Pour les 75 ans de Paris Match, nous vous proposons un numéro événement. Les 7 acteurs historiques du Splendide réunis pour un entretien et des photos exclusives. Un reportage exceptionnel avec les gueules cassées de l'armée ukrainienne et les tableaux de Notre-Dame de Paris entièrement restaurés.
Paris Match, numéro spécial anniversaire de 220 pages, en vente 3 semaines.
Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte l'histoire de Lili Keller-Rosenberg et de sa famille, tirée du livre que Lili publie chez Plomb, Et nous sommes revenus seuls. En octobre 1943, Lili, ses deux frères et ses parents, des juifs originaires de Hongrie, sont arrêtés à Roubaix et déportés dans le camp de concentration de Ravensbrück, en Allemagne. Comme à présent, nous sommes trop nombreuses pour la douche, maman a décidé de nous réveiller une demi-heure avant la sirène, pour que nous fassions notre toilette avant tout le monde. Les enfants, vous voyez? On nous a tout pris. Mais il ne faut pas courber la tête. Redressons-nous, soyons dignes. Hein? Et pour rester digne, il faut faire sa toilette tous les jours, hein? Pour avoir l'air correct. J'ai gardé cette leçon de vie. Restez digne, en toutes circonstances. Nous sommes infestés de vermine, rongés par la dysenterie. Robert a la tête couverte de furoncles et André a attrapé un énorme anthrax sur l'aine. Et moi aussi, j'ai un îlot de furoncles sur le ventre. Et maman en a sur les fesses. Elle ne peut plus s'asseoir. Et puis un jour, me voilà avec une mauvaise grippe intestinale. Alors je dois aller au Revire, le bâtiment pour les malades, sans maman, ni mes frères. Un endroit plein de souffrants, dont on revient rarement. Les nuits sont cauchemardesques. Les quintes de toux des tuberculeux, les gémissements, le râle des mourantes. Et moi qui grelotte de fièvre et d'effroi. C'est probablement là que commencent mes insomnies qui ne m'ont jamais quitté. Voilà plus d'un an que nous sommes là. Et nous ne comptons plus les cadavres. J'ai 12 ans maintenant. Et cette vie misérable est presque devenue un spectacle ordinaire. Un matin de février 45, après l'appel, des femmes sont regroupées sur la place. Nous comprenons que nous allons quitter le camp. Mais pour aller où? On nous amène à une gare. On nous entasse à nouveau dans des wagons à bestiaux. Et ce voyage est un cauchemar indicible. Il dure 3 jours, peut-être 4, sans manger, sans boire. Et puis le train finit par s'arrêter en pleine voie. On descend pour aller vers des camions. quand un SS demande à maman et à une autre femme de remonter dans les wagons pour nettoyer ce qu'il reste. C'est-à-dire que maman doit saisir à pleine main des cadavres de bébés. 27 sont morts pendant ce voyage. Et les camions démarrent. Et ils nous emmènent vers un nouveau camp. Bergen-Belsen. Quand nous franchissons l'entrée, c'est l'apocalypse. Des centaines de cadavres jonchent le sol que nous devons enjamber. Avec maman, on se regarde. Cette fois, nous n'allons pas nous en sortir. Elle se penche vers nous et nous nous disons adieu, tous les quatre. Au revoir, ma petite Lily. Et nous nous embrassons parce que désormais, nous attendons la mort. Mais ce qui va suivre sera pire que la mort. Quand nous entrons dans le bloc, il est déjà plein à craquer. Un groupe de Polonais se rue vers nous et se met à nous battre et à vociférer. Il n'y a plus de place! Il n'y a plus de place ici! Notre installation se fait dans le chaos. Nous nous asseyons par terre dans un recoin. Et Robert et moi, nous nous couchons à moitié sur une personne qui nous laisse faire. Le lendemain matin, nous découvrons que nous avons dormi sur un cadavre. À peine ouvert les yeux, des cris dehors.
Los! Los!
L'appel, comme à Ravensbrück. On se précipite, on sort. En face de notre baraquement, dans une espèce de hangar, sont entassés des monceaux de cadavres, nus, pêle-mêle, jetés là comme des déchets. L'enfer, c'est ici. Les nazis comptent sur l'épuisement, la faim et le typhus pour exterminer les déportés. Chaque jour, maman, avec trois autres déportés, est chargée d'emporter les cadavres à l'extérieur, vers des charrettes qui acheminent les corps vers des fosses que les nazis aspergent d'essence ou de chaux vives pour y mettre le feu. Nous passons toutes nos journées assises par terre dans le bloc. En face de nous, il y a une Italienne et son petit frère qui doit avoir 15 ans. Il va très mal et sa grande sœur s'occupe de lui avec beaucoup de tendresse. En fin d'après-midi, elle s'est endormie et lui, il est à côté d'elle, immobile. Et soudain, je le vois blêmir, se mettre à suffoquer, et un liquide brunâtre se répand sous lui. Et c'est fini. Il est mort seul. Mais lui, il a été délivré. Maman a attrapé le typhus. Je suis anéanti. Le 15 avril 1945, nous sommes allongés sur le sol dans une morbide torpeur. La porte s'ouvre et nous voyons entrer des soldats, des Anglais. En nous découvrant pauvres déchets humains, ils font un pas en arrière, ils sont paralysés d'effroi, ils ont l'air perdus, décontenancés. Quand ils reprennent leurs esprits, ils se mettent à nous distribuer de la nourriture, d'énormes pains de campagne, des tubes de lait concentré, des boîtes de cornet de bœuf. Mais nous ne pouvons plus manger. Nous n'en avons plus la force. Il y en a qui se jettent dessus et qui dévorent les pains d'une traite. Dans les heures qui suivent, ils vont mourir d'avoir trop mangé et trop vite. Nous sommes libérés, mais nous restons blottis les uns contre les autres. Et moi, je ne ressens pas de joie. D'autant plus que depuis quelques jours, maman bizarre. Inerte, allongée sur le sol, quasi inconsciente. Avec ses doigts, elle se malaxe le ventre. Si j'arrête, je vais mourir. Elle qui a été si forte pour nous. Elle ne se ressemble plus. Alors tous les jours avec Robert, nous tentons de la sortir du bloc en la traînant pour qu'elle puisse mieux respirer. Et puis un jour, les infirmières la couchent sur une civière et elles l'emmènent à l'hôpital. Nous la regardons partir, le cœur serré. Et nous restons seuls, seuls et désemparés. Est-ce qu'on la reverra ?
14h, 15h, on de la raconte sur Europe 1.
Du lundi au dimanche de 14h à 15h sur Europe 1, Christophe Ondelat vous raconte les histoires qui vous ont marqué. La suite d'On de la raconte, c'est juste après un peu de musique et ce titre de la chanteuse américaine Alicia Keys sorti en 2007. Alicia Keys, je vous propose d'écouter cet après-midi No One sur Europe 1. Alicia Keys avec vous ce dimanche après-midi sur Europe 1 et ce classique sorti en 2007. C'était No One, extrait de As I Am, le troisième album de la chanteuse américaine. Merci de nous rejoindre et bienvenue sur Europe 1. Notez que demain matin, Nicoletta sera l'invitée de Thomas Hill dans Culture Média. Nicoletta qui vient de fêter ses 80 ans avec la sortie du coffret Nicoletta l'intégrale. Culture Média, votre émission de référence sur les médias présentée par Thomas Hill, de 9h30 à 11h du lundi au vendredi sur Europe 1. Europe 1 où votre dimanche après-midi se poursuit avec Christophe Ondelatte de 14h à 15h, c'est Ondelatte raconte sur Europe 1.
Europe 1, 14h, 15h, Ondelatte raconte.
Je vous raconte l'histoire de Lily Keller-Rosenberg et de sa famille, tirée de livres que Lily publie chez Plon. Et nous sommes revenus seuls. La famille Rosenberg est déportée à Ravensbrück en 1943. En février 1945, la mère et les trois enfants sont transférés à Bergen-Belsen. Au moment de la libération du camp par les Anglais, la mère atteinte par le typhus est emmenée à l'hôpital. Et puis un soir, une grande effervescence gagne le camp. Il paraît que les Françaises, les Belges et les Néerlandaises vont pouvoir rentrer chez elles. Elles partent demain. On va rentrer sans maman, qui est toujours à l'infirmerie. Eh ben oui, nous allons devoir partir tous les trois sans pouvoir l'embrasser. Le lendemain, on nous demande de rassembler nos affaires. Nous grimpons dans des camions, on ne sait pas où ils nous emmènent. Quand nous descendons des camions, il reste un long chemin à pied jusqu'à la gare. Et nous sommes tous les trois très affaiblis et malades. André a la tête et le ventre énormes et les bras et les jambes très maigres. Il ne sait même plus marcher. Alors je décide de le porter. Personne ne nous aide. Personne ne se préoccupe de nous. Nous sommes une armée de morts-vivants.
Chez Grand Optical, nous pensons que vos yeux méritent l'excellence. Expertise en santé visuelle, conseils personnalisés et découverte des dernières tendances, nos experts sont là pour vous. Et avec ma box Grand Top, profitez en plus de nombreux avantages et de jusqu'à 40% de réduction sur votre monture. Grande expertise, Grand Optical. Réservé aux détenteurs d'une box Grand Top, produit payant, conditions en magasin ou sur grandoptical.com. Dispositif médical CE.
Allons. Au bout de 4 ou 5 jours, le train s'arrête à Bruxelles. Et là, sur le quai, un monde fou et de la musique. Des pleurs, les cris de joie des familles qui se retrouvent. On nous embrasse, on nous questionne, on nous bourre de nourriture. Et moi, je pense à maman. Est-elle toujours en vie? Et puis, nous reprenons notre place dans un wagon jusqu'à Paris. Paris que nous n'avons jamais vu. Un camion nous attend à la gare. Il nous dépose à l'hôtel Lutetia. Et là, se forme sur notre passage une haie immense de Parisiens qui nous acclament. Et nous sommes tous les trois les plus petits déportés de ce cortège. Nous entrons dans l'hôtel, nous sommes mitraillés par les photographes. Les gens s'embrassent, ils pleurent, ils rient. Partout, c'est la joie. Mais pour nous, personne n'est là. Personne n'est venu nous chercher. Une assistante sociale qui s'appelle Francine nous a remarqués. Je vais téléphoner à mon frère, hein, pour lui demander de vous accueillir. Ne vous inquiétez pas. Son frère s'appelle André Chinsky. Il habite à Neuilly. Et il vient nous chercher tout de suite et il nous emmène chez lui. Sa maison est très belle. Et nous sommes dégoûtants. Alors la première chose qu'il fait, c'est de nous plonger dans la baignoire. Et ensuite, il nous sert un vrai repas. Et puis, il nous monte sur son dos pour aller dans les chambres. Nous, on n'en a pas la force. Nous dormons dans de vrais lits pour la première fois depuis un an et demi.
Je ne sais pas par quel hasard, quelques jours après notre arrivée, me revient en mémoire que nous avons une tante qui habite à Niort, Clara. C'est la sœur de maman. Alors M. Chinsky lui écrit, et elle vient nous chercher. Et à la gare de Niort, quand nous descendons, une foule nous acclame. Mon oncle est sur le quai, il y a une fanfare, des journalistes. Ils veulent tous voir ces trois petits-enfants rentrer seuls des camps de la mort. Ils veulent nous embrasser, nous poser des questions. Mais nous, on est trop émus pour leur répondre. Où sont papa et maman ? La Croix-Rouge est venue nous ausculter. Et ils ont décidé de nous transférer dans un préventorium, le Nid Marin, à Hendaye, au bord de la mer. C'est la première fois que nous voyons l'océan. Mais je n'en garde aucun souvenir. Notre esprit est resté ailleurs. Et là, à Hendaye, se produit un miracle. On est là dans notre chambre, tous les trois amorphes. La porte s'ouvre. Maman ! Maman apparaît. Elle est revenue, elle nous a retrouvés. Elle est dans un état épouvantable, elle pèse 27 kilos, mais elle est là. Elle est vivante. Et avec maman à nos côtés, tout redevient possible. Entre 130 000 et 140 000 femmes ont été déportées à Ravensbrück, dont 8 000 françaises. 90 000 y sont mortes. Alors pourquoi sommes-nous revenus vivants, tous les quatre ? Je ne vois qu'une seule explication. L'amour de maman, sa force, son courage. Elle n'a vécu que pour notre survie. Elle nous a en quelque sorte portés deux fois. Elle nous a donné deux fois la vie. Puisque maman a survécu, maintenant, nous espérons le retour de papa. Nous apprendrons par des déportés de Buchenwald qu'il a été mitraillé avec un groupe de juifs trois jours avant la libération du camp. Les nazis ont volé mon enfance. Ils ont mis un poids sur ma vie. Je ne suis pas malheureuse, mais je ne pourrais pas dire que je suis heureuse non plus. J'en suis incapable. J'éprouve des joies, hein, des petites joies qui me font du bien. Mais le bonheur, non. À 88 ans, quand j'y pense, j'envie les dames de mon âge qui ont une vie facile. Moi, j'ai un rôle à jouer. Je dois transmettre, partir sur les routes, témoigner, ne jamais abandonner, jamais. Quand j'y pense, tout ça aurait pu me rendre méchante. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Je me suis rendu compte que le mal qu'on faisait aux autres, on se le faisait à soi-même. Si j'étais devenu dur et insensible, ça m'aurait abîmé. Je veux un monde de paix. Est-ce utopique ? Je ne le crois pas. Qui avait choisi cette chanson, vous en parlez dans votre livre de Félix Leclerc, j'ai l'impression qu'elle vous donne un peu de force.
Oui, parce que cette chanson résume bien notre vie antérieure, et puis surtout, cette chanson est pleine d'espoir, parce que moi j'y crois, vous voyez, à un monde de paix que je ne connaîtrais peu, Malheureusement, je suis trop âgée.
Moi non plus.
Vous êtes jeune encore à côté de moi. Mais vous savez, tous ces jeunes qui m'ont entendu, ces milliers.
Combien de jeunes ont entendu votre histoire?
Ah, vous savez,
dans les classes.
Je témoigne depuis plus de 40 ans et ces dernières années, j'en rencontrais plus de 25 000 chaque année. C'était énorme. Et vous savez, je suis étonnée. Ils rentrent, ces jeunes, dans la salle. Bruyants, ils sont agréables, ils sont jeunes, dynamiques. Mais dès que je commence mon témoignage, c'est le silence le plus complet. On entendrait une mouche voler.
On dit souvent qu'il est difficile de parler de la Shoah dans certaines classes.
Eh bien, écoutez, c'est vrai, les enseignants parfois me mettaient en garde, d'autant plus qu'il y a de temps en temps des élèves très mélangés, n'est-ce pas?
Oui.
Des enfants maghrébins,
oui.
Et je m'attendais à des remarques très désobligeantes, dans le sens, par exemple... On n'a pas tué assez de juifs pendant la... Ou bien, c'est dommage que vous soyez rentrés. Eh bien, j'en avais une crainte au début, tout au début. Mais jamais je n'ai été confrontée à cela. Et maintenant, j'ai une foi intense dans les jeunes.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de l'une des dernières déportées encore vivantes, Lily Keller-Rosenberg, qui est là face à moi. Histoire que je tire, Lily, de votre livre qui paraît chez Plon. Et nous sommes revenus seuls, qui est donc le récit de votre déportation à Ravensbrück, puis à Bergen-Belsen, avec votre mère et vos deux petits frères. Votre père étant, lui, interné à Buchenwald, il est le seul de votre famille à ne pas être rentré. Alors, il y a dans votre histoire un grand mystère pour notre société d'aujourd'hui qui se victimise assez souvent, c'est que vous n'avez pas raconté votre histoire en rentrant. Ni vous, d'ailleurs. Ni les autres, même à votre mari, Claude. Vous n'avez pas raconté au début.
C'est vrai. Vous savez, c'est une histoire qui est semblable à toutes les déportées. Tous les déportés l'ont dit au retour, nous n'en parlions pas. D'abord, nous étions traumatisés par ces presque 2 années de souffrance. Et puis ensuite, si de temps en temps, lorsqu'on leur expliquait... Eh bien, les gens ne nous croyaient pas. Ça nous vexait terriblement de n'être pas crus. C'est vrai. Je me suis dit, il est plus que temps maintenant. D'abord, ce n'est pas arrivé tout de suite. Ce n'est qu'avec l'apparition des négationnistes que j'ai commencé à témoigner. Pourtant, je vous assure, j'étais timide à l'époque. Mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. Il me fallait absolument rencontrer des jeunes pour expliquer ce qu'étaient ces horreurs.
Mais même avec votre maman et vos deux frères, quand vous vous retrouviez tous les quatre, vous n'en parliez pas.
Nous n'en parlions pas. Nous trouvions cela inutile, puisque tous les quatre, nous avions vécu les mêmes choses. C'était inutile d'en parler. Au départ, voilà, je me suis dit, il faut raconter aux jeunes. Les jeunes sont notre force et c'est la France de demain, les jeunes. Je crois en eux. Ils sont capables de transmettre. Quand je n'y serai plus et qu'il n'y aura plus un seul déporté, moi, je suis persuadée que des jeunes... Vous savez, je n'ai pas cette prétention que des milliers de jeunes le fassent. Mais s'il n'y en avait qu'une bonne poignée, ça ferait boule de neige. Et je suis persuadée, je le souhaite de tout mon cœur, que ces jeunes connaissent un monde de paix.
Vous connaissez notre société aujourd'hui. Il se dit dans notre société d'aujourd'hui que quand on a un gros traumatisme, on ne peut plus vivre, que ça n'est plus vivable. Et d'une certaine manière, vous et les autres déportés, vous montrez qu'on peut tracer sa vie malgré sans doute le plus gros traumatisme qu'un enfant ait pu vivre.
C'est bien vrai. Vous savez, nous, au retour, nous avions beaucoup souffert, mais à l'époque, il n'y avait pas de psy pour nous aider à refaire surface, comme actuellement, qui est une très bonne chose. À l'époque, il fallait ne compter que sur soi-même. Beaucoup n'y ont pas réussi, mais ceux qui le font avec beaucoup de conviction, et je pense que c'est une chose tellement importante de ne pas ignorer ce qui fut.
Mais vous, est-ce que votre vie aurait été différente si, j'ai envie de dire, à la descente du train à Paris,
on vous avait mis dans les mains de psy qui vous aurait dit « Oulala, vous n'allez pas vous en remettre, il va falloir nous parler pendant des années ».
Eh bien, je pense qu'avec l'exemple de maman, j'aurais quand même eu cette envie, malgré ma timidité, d'avancer. Et c'était trop utile et à mes yeux. Et puis, vous savez, c'était un tel exemple, maman, de force, de résilience que nous avons eue, qui n'est pas donnée à tout le monde, n'est-ce pas? Et c'est bien malheureux, mais il faut comprendre, chacun réagit comme il le peut, comme il le sent. Moi, j'en connais beaucoup qui avaient beaucoup de choses à dire, mais qui ne pouvaient pas parler, qui ne pouvaient pas trouver les mots nécessaires. Mais quand d'autres le font, comme moi-même, eh bien, raison de plus pour travailler sur ce thème important.
Ni votre mère, ni aucun de vos deux frères n'ont vécu ce qu'on appelle une phase de dépression à leur adolescence.
Non.
C'est dingue.
Fort heureusement,
vous vous rendez compte, vu de la société d'aujourd'hui, comme ça paraît incroyable.
Effectivement, c'est incroyable. Mais je ne sais qui nous donnait cette force. Vous savez, j'étais à Ravensbrück avec Geneviève de Gaulle, qui avait la foi, elle, pour l'aider à refaire surface. Tandis que nous, non. Nous étions juifs parce que nous étions nés juifs, c'est tout. Mais nous n'étions pas pratiquants. Donc ce n'est pas la foi qui nous a sauvés. Je pense que c'est la amour maternel, que c'est aussi l'évidence qu'on ne peut pas toujours cacher ce qui a été. Il faut avoir la force, même s'il y a des conséquences, il faut avoir la force de transmettre.
À tout de suite pour d'autres questions, évidemment, Lily. Lily Keller-Rosenberg, vous avez écrit « Et nous sommes revenus seuls » et ça paraît aux éditions Plomb.
Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner ? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Europe 1. 14h, 15h, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Lily qui est en face de moi, Lily Keller-Rosenberg. Vous êtes l'une des dernières déportées encore vivantes. Et cette histoire, je l'ai tirée de votre livre qui paraît chez Plomb. Et nous sommes revenus seuls, qui est donc le récit de votre déportation à Ravensbrück et à Bergen-Belsen avec votre mère et de vos petits frères, sachant que votre papa, lui, est mort à Buchenwald. Il est le seul à ne pas être rentré. Alors, ce qui est intéressant, par ailleurs, dans votre livre, Lily, c'est que vous ne parlez pas d'Auschwitz, qui était un camp très particulier, et les camps dans lesquels vous avez vécu, vous, il y avait des fours crématoires, mais il n'y avait pas de chambre à gaz. La stratégie dans ces camps-là, c'était de vous laisser mourir.
C'est ça, mourir à petit feu.
Mmh. Oui. Mais pas de vous tuer.
Non, pas tuer tout de suite. De toute façon, vous savez, la plupart sont décédés, n'ont pas tenu ce régime de terreur. Donc, j'en ai vu des cadavres et des déportés, des connaissances mourir là, face à moi.
Avec ce grand paradoxe, c'est que donc la stratégie des nazis était que vous mouriez de faim et de maladie, mais qu'il y avait aussi un hôpital où on vous a soigné et où on a soigné votre maman. C'est un truc qu'on a du mal à comprendre, vous comprenez ça ?
Oui.
Pourquoi ils vous soignaient, puisque leur stratégie était de vous faire
cela,
mourir.
C'est cela, c'est étonnant. Nous étions destinés à périr et on nous soignait. Bon, les adultes, peut-être, parce qu'ils étaient rentables. Vous savez que tous ces déportés étaient de la main-d'œuvre gratuite pour les nazis. Donc, tant qu'ils pouvaient, les faisait travailler très dur. Mmh. Et maman a travaillé très dur. Vous savez, maman était une femme petite, menue. Elle effectuait des travaux d'homme très pénibles.
Et je le disais tout à l'heure, on connaît mieux Auschwitz finalement que Ravensbrück, et vous n'avez pas le numéro gravé sur votre bras.
Non, c'est vrai. C'est
on
vrai
vous l'a reproché, enfin, ça a amené à des doutes.
Non, c'est tout simple, vous savez. C'est vrai qu'Auschwitz, c'est le camp type qu'on fait le plus souvent visiter aux élèves. Et d'ailleurs, j'y suis allée à maintes reprises avec des élèves et des enseignants. Mais à Auschwitz, on tatouait sur le bras gauche le numéro de matricule. Oui. Dans les autres camps, le matricule était ce chiffre inscrit sur un carré d'étoffe
qui était cousu,
qui était cousu sur la robe rayée.
Alors, vous êtes retourné à Ravensbrück?
À plusieurs reprises, à Ravensbrück,
à Bergen-Belsen.
Bergen-Belsen.
Mais qu'est-ce qui reste?
Il reste plus grand-chose, surtout à Bergen-Belsen, plus grand-chose de ces camps-là. C'est donc difficile de faire comprendre aux jeunes, de leur faire comprendre ce qui était exactement. Mais, vous savez, notre façon de raconter les émeut, et je pense qu'ils savent.
Ils visualisent.
Ils savent, ils ont de l'imagination. Mmh. D'ailleurs, quand je témoigne, beaucoup d'élèves disent « Madame, on s'y croirait ». On se voit dans ce que vous racontez. Donc, vous voyez, il s'agit d'être persuasif et pour le bon motif, bien entendu.
Votre bloc numéro 31 à Ravensbrück, il n'existe plus.
Il n'existe plus. Et dans ce bloc 31, j'étais avec Geneviève de Gaulle. Oui. Et vous savez, il y a une histoire très, très touchante
avec
Geneviève. Vous savez, contre toute attente, maman avait trouvé une brosse à dents dans le camp. C'était un objet introuvable. Oui. Je ne sais comment elle a fait, mais elle connaissait en même temps une autre déportée, une Polonaise, qui gravait à la perfection. Elle a fait graver sur le manche de la brosse à dents une tête de Christ qu'elle a ensuite offerte à Geneviève, qui était très émue. Et vous savez, même des années après notre retour, elle en reparlait encore, Geneviève, de cette brosse à dents. Vous voyez, il se passait des choses aussi tellement merveilleuses dans le camp. Cet amour qu'on avait, on partageait les mêmes choses. Et Geneviève était une femme discrète, mais quel cœur, quel grand cœur elle avait.
Est-ce que vous êtes allé à Buchenwald où votre papa est mort?
J'y suis allé à plusieurs reprises avec des élèves et c'est toujours émouvant d'aller partout dans ces camps avec les élèves. Mais à Buchenwald, vous savez, c'était spécial. J'avais témoigné auparavant à plusieurs reprises dans un collège dans le Nord. Et puis, les enseignants, émus par cette histoire, ont fait graver une plaque au nom de papa.
Buchenwald?
Et donc, ils sont venus à Buchenwald avec un quart de 60 élèves. Chacun avait une rose. Et à Buchenwald, on a apposé cette plaque sur le mur du musée. Et j'étais si heureuse parce que papa, sinon, aurait disparu sans existence. Là, au moins, ça prouvait qu'il avait vraiment vécu et qu'il avait existé.
Vous racontez dans le livre que votre fille unique, vous n'en avez qu'une, elle est là d'ailleurs.
J'ai eu beaucoup de difficultés, c'est vrai.
Votre fille unique n'a jamais voulu venir avec vous, ni
jamais.
À Bergen-Belsen,
non.
Ni à Ravensbrück.
Je pense, vous savez monsieur, je me culpabilise parce que je dis que mon histoire l'a traumatisée également. On n'en parle pas assez des familles de déportés. Mon mari me disait également, on ne nous interroge jamais, nous, la famille. Ma fille non plus. Et je pense qu'elle en a souffert et qu'elle souffre encore actuellement. Je ne veux pas en parler, mais bien entendu, elle a fait des études, elle sait ce qui s'est passé, elle lit les journaux, elle entend les médias, donc elle est parfaitement au courant, mais nous n'en parlons pas entre nous. Par respect, nous ne voulons pas nous faire souffrir. Moi, je ne veux pas la faire souffrir.
Elle ira après.
Elle a dit j'irai.
Après.
Sois persuadée que j'irai, mais seule.
Mmh. Le curé, l'abbé Flippot, ça c'est une belle histoire parce que vous êtes juif, sans vraiment savoir que vous êtes juif, ni ce que ça veut dire.
C'est
mais il y a donc un curé qui vient vous proposer de vous aider.
C'est vrai, un curé merveilleux qui était de notre paroisse là-bas à Roubaix.
C'est dingue de vous entendre dire notre paroisse.
Non, parce que c'était mon quartier, vous voyez. Oui. Et puis, il est venu trouver nos parents, leur ont conseillé de nous cacher. Vous vous rendez compte, dans sa propre famille, comme c'était courageux. Vous savez, les familles qui cachaient des juifs risquaient d'être déportés à leur tour. Nous étions si bien dans cette famille aimante. Bien sûr que nos parents nous manquaient quand même un peu. Nous ne les rencontrions guère. Il ne fallait pas prendre de risques.
Risque, ouais.
Mais après-guerre, nous les avons retrouvés avec tant de bonheur, avec tant de cœur. Et puis après, la vie est ce qu'elle est. Le curé a été déplacé dans un autre département. Nous ne l'avons plus revu.
Mais vous l'avez fait rentrer au Mémorial des Justes.
C'est une magnifique histoire aussi. Vous savez, Yad Vashem,
oui.
À Yad Vashem, il y a donc toujours pour ceux qui ont aidé les Juifs, c'est tellement beau cette reconnaissance que je tenais absolument à ce qu'ils l'obtiennent également. Ça n'a pas été chose aisée parce qu'on fait
des enquêtes
sérieuses à fond. Mmh. Mmh. Mais j'ai fini par aboutir et donc ils sont maintenant les justes. Mmh. Et c'est une grande satisfaction pour moi. C'était la moindre des choses que je pouvais faire pour eux.
J'ai beaucoup aimé parler avec vous, Lily. Merci infiniment de m'avoir confié votre histoire, tirée de ce livre, donc de Lily Keller-Rosenberg, qui paraît chez Plon. Et nous sommes